La traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم.
N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et mis bas de toi ton fardeau qui écrasait ton dos et élevé haut pour toi ta renommée? Oui, car à côté de la difficulté est une facilité. Quand tu es libre donc, lève-toi et aspire à ton Seigneur.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes samedi 5 Khordad, 1403 du calendrier iranien, 25 mai 2024. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Les funérailles du président Raisi, qui ont rassemblé des millions de personnes, montrent la puissance de l'Iran, a déclaré le leader de la révolution islamique. Les funérailles du président Raisi, qui ont rassemblé des millions de personnes, montrent la puissance de l'Iran, a déclaré le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. Selon le secrétaire général du Hezbollah libanais, le président Raisi croyait profondément en la cause palestinienne et en la résistance. Et enfin, la Cour internationale de justice ordonne à Israël de cesser son offensive contre Rafah. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le leader de la révolution islamique a rencontré les familles du défunt président Raisi et de plusieurs de ses compagnons qui sont tombés en martyr dans un accident d'hélicoptère dans la province iranienne de l'Azerbaïdjan oriental dimanche. Le leader de la révolution islamique a déclaré que la participation massive du peuple iranien au cortège funéraire du défunt président Raisi témoignait au monde entier du soutien qu'apporte le peuple iranien à la République islamique d'Iran et à ses dirigeants. L'honorable Ayatollah Khamenei a ainsi souligné que le pouvoir de la République islamique d'Iran émanait profondément du peuple iranien. Il a noté que le président Raisi était un symbole de soutien de la révolution islamique, qualifiant sa perte de dommage lourd et irréparable pour le pays. Le commentaire d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyed Hassan Nasrallah, a prononcé un discours vendredi 24 mai à Beyrouth, capitale libanaise, pour rendre hommage au président iranien et à ses compagnons morts en martyr dans un accident d'hélicoptère dans le nord-ouest de l'Iran. Seyed Hassan Nasrallah a également déclaré que le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, tombé aussi en martyr dans l'accident, croyait en la résistance et ses mouvements. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a qualifié cet accident tragique de très douloureux et très triste, aussi bien pour l'Iran que pour les autres pays. Il a noté que les funérailles des martyrs avaient réuni des millions de personnes à travers la République islamique d'Iran. Le cortège funèbre est le troisième plus grand dans l'histoire de l'humanité après celui de l'imam Khomeini et du martyr Qassem Soleimani, a estimé Seyed Hassan Nasrallah, faisant référence respectivement au défunt fondateur de la République islamique d'Iran et à l'ancien commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique. Dans une autre partie de son discours, Seyed Hassan Nasrallah a souligné que la participation massive témoigne de la loyauté, de l'allégeance et de l'engagement ferme du peuple iranien à la voix de l'imam Khomeini et du leadership de la République islamique d'Iran. Il a indiqué que la tragédie n'avait ni affaibli ni ébranlé la République islamique d'Iran, affirmant que le pays restait un partisan clé de la cause palestinienne pour libérer la Palestine du joug de l'occupation et de l'agression israélienne. Au 232e jour du génocide américano-israélien à Gaza, le régime de Tel Aviv persiste dans sa politique de bombardement incessant sur les territoires occupés palestiniens. Les frappes aériennes et d'artillerie sont multipliées, laissant derrière elles un paysage de destruction et de désolation. Au moins 4 personnes ont été tuées après que des avions militaires israéliens ont frappé leur maison dans le camp de réfugiés de Nusayrat, dans le centre de la bande de Gaza. 6 Palestiniens ont été tués par des balles réelles israéliennes près du pont de Wadi Gaza, dans le centre de la bande de Gaza. Plus de 7 mois de bombardements intenses d'Israël ont poussé la plupart des hôpitaux de Gaza à la limite de leur capacité. La population de Gaza, déjà éprouvée par les conflits, se retrouve maintenant dans une situation encore plus précaire en raison de la détérioration des services de santé. L'Organisation des Nations Unies a déjà averti qu'une vingtaine de nouveau-nés sont en danger car les ventilateurs de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa cesseront de fonctionner en raison du manque de carburant. Pendant ce temps, l'armée israélienne poursuit son offensive à Rafah au mépris des appels internationaux. La plus haute juridiction de l'Organisation des Nations Unies a ordonné à Israël de cesser immédiatement son offensive militaire dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. La Cour internationale de justice a été saisie par l'Afrique du Sud, qui accuse également Israël de violer la Convention sur le génocide. Dans son arrêt, la CIJ a également ordonné à Israël d'ouvrir le passage vital de Rafah pour l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire, notant qu'Israël maintient le passage fermé depuis 3 semaines maintenant. Cela a empêché la livraison de fournitures indispensables telles que des médicaments, de la nourriture et du carburant depuis l'Égypte vers Gaza. La décision de la CIJ intervient après que l'Afrique du Sud a demandé des mesures d'urgence pour protéger Rafah dans une affaire de génocide contre Israël. En janvier, la CIJ a également ordonné à Israël de prendre des mesures pour prévenir le génocide à Gaza. Le régime israélien n'a pas respecté cette décision. Les arrêts de la CIJ sont juridiquement contraignants, mais il n'a aucun moyen de les faire respecter. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter notre commentaire politique qui porte sur le discours du leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, en présence des martyrs de l'accident d'hélicoptère survenu la semaine dernière en Iran. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a déclaré que la participation massive des Iraniens au cortège funéraire du défunt président Ebrahim Raisi a montré la force de la République islamique d'Iran. L'honorable Ayatollah Khamenei a fait ses remarques lors d'une visite mercredi soir à la famille du président décédé, qui a perdu la vie avec le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, et 6 de leurs compagnons, dans un accident d'hélicoptère dans la province iranienne de l'Azerbaïdjan oriental dimanche dernier. le leader de la révolution islamique, a déclaré que la participation massive du peuple iranien au cortège funéraire du défunt président témoigne au monde entier du soutien qu'apporte le peuple iranien à la République islamique d'Iran et à ses dirigeants. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a ainsi souligné que le pouvoir de la République islamique d'Iran émanait profondément du peuple iranien. La participation massive du peuple au cortège funèbre n'a pas été cachée aux invités étrangers et a démontré les racines populaires et la force de la République islamique d'Iran, a déclaré l'honorable Ayatollah Khamenei. Le leader de la révolution islamique a noté que le président Raïsi était un symbole de soutien à la République islamique d'Iran, qualifiant sa perte de dommage lourd et irréparable pour le pays. L'honorable Ayatollah Khamenei a également parlé de la gentillesse, de l'affection et du dévouement manifestés par les habitants de diverses villes à l'occasion du tragique accident d'hélicoptère. Ces rassemblements, qui comprenaient des prières et des supplications pour que le président et ses compagnons soient sains et saufs, ont montré justement le lien fort qui existe entre le peuple et la révolution et les principes de la révolution islamique, a expliqué l'honorable Ayatollah Khamenei. Le tragique accident d'hélicoptère a prolongé l'Iran dans le choc et le chagrin et a généré une vague de soutien et de solidarité de la part des musulmans et des non-musulmans du monde entier. L'honorable Ayatollah Khamenei, exprimant sa profonde tristesse face à ce décès semblable au martyr, a déclaré lundi 5 jours de deuil national. Selon les estimations, plus de 4 millions de personnes à Téhéran et 3 millions à Mashhad ont participé au cortège funèbre du défunt président et de ses compagnons. Le président Ebrahim Raïsi a été inhumé dans le sanctuaire du 8e imam des chiites, l'imam Reza béni soit-il, situé dans la mégapole de Mashhad.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, suite à l'accident d'hélicoptère du défunt du président iranien Ebrahim Raïsi, le monde entier, enfin un quart de la population mondiale est en deuil. Et on a vu au cours de ces 4-5 derniers jours l'ampleur de la sympathie et de la qualité de la sympathie que le monde entier a eu envers la République islamique d'Iran suite à cet accident tragique. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
L'ampleur et la qualité de la sympathie des pays envers l'Iran vont bien au-delà des protocoles en cours en matière de normes consulaires. Cette présence, cette solidarité internationale trouve sa signification métatextuelle la plus importante dans l'effondrement du mythe de l'isolement de l'Iran et de sa négligence dans les équations mondiales. L'Iran s'impose désormais comme un acteur visible et décisif dans les évolutions internationales. suite à l'accident d'hélicoptère du défunt président iranien et de ses compagnons, de nombreux messages de sympathie et de condoléances ont été envoyés à Téhéran. Les messages de condoléances provenaient des pays de 5 continents. Certains pays ne sont pas limités à envoyer des messages de condoléances. Ils se sont également rendus dans les ambassades ou les centres consulaires d'Iran dans leurs pays respectifs et en plus d'exprimer leurs condoléances en personne. Ils ont signé le livre commémoratif. Ce qui est très remarquable, c'est que certains des pays les plus importants du monde, en plus d'exprimer ses sympathies, ont décrété un deuil public dans leur pays. L'Inde, l'Irak, le Pakistan, la Turquie, le Liban, la Syrie, le Tadjikistan et Cuba sont les pays qui ont déclaré un deuil national d'un à trois jours. Ainsi, plus d'un quart de la population mondiale a participé au deuil de la nation iranienne à l'initiative de ce gouvernement. En outre, le jour des funérailles des martyrs de la voie du service, plus de 60 groupes politiques de haut rang de différents pays du monde se sont rassemblés à Téhéran pour exprimer leur solidarité avec la nation et le gouvernement iranien. Il semble qu'un tel niveau et qualité de solidarité des pays envers l'Iran dépasse les protocoles en cours en matière de normes diplomatiques.
Eh bien, voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par Emadeddine Hamrouni, intellectuel et analyste politique, qui est avec nous depuis Paris. Monsieur Hamrouni, bonjour.
Bonjour à vous et à votre cher invité.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand bonjour à Monsieur Bernard Cornu, également intellectuel, analyste politique. Et bonjour, Monsieur Cornu.
Bonjour à vous, bonjour à tous et à Monsieur Hamrouni.
Bien sûr, ce débat porte la tragédie, bien sûr, un deuil du jamais vu au cours de ces décennies. Un quart de la population mondiale est en deuil, selon leur guise, bien sûr. Alors, ma première question va s'adresser à M. Bernard Cornu, donc, qui est avec nous depuis Vaucluse. M. Bernard Cornu, comment vous voyez l'ampleur de la sympathie que presque le monde entier a eue envers la République islamique d'Iran?
C'est un signe, comme vous l'avez dit, que l'Iran est entré depuis quelques années dans, disons, le contexte mondial pour son influence, pour ses liens, pour ses initiatives, et que certains pays, les grands pays que vous avez cités, soit de la région, Liban, Irak, et aussi un peu plus loin, l'Inde, la population la plus importante au monde, ont été sensibles à son action et donc ont décrété un deuil pour ce décès accidentel du président Raisi. C'est un signe effectivement de cette importance, de ce positionnement de l'Iran dans la politique internationale, dans la géopolitique conflictuelle, dans lequel l'Iran a essayé de jouer un rôle d'apaisement et de réconciliation tout en résistant aux emprises des forces impérialistes, disons, qui sévissent encore dans la région et qui occupent beaucoup de territoires, beaucoup de bases militaires dans la région. Je rappelle souvent que l'Iran n'a jamais attaqué d'autres pays voisins et qu'il a toujours cherché à trouver des arrangements avant que les conflits s'endurcissent.
Oui, on ne peut pas mieux commencer l'émission du débat d'aujourd'hui qu'avec ces propos donc de M. Bernard Cornu concernant donc ce deuil, on peut dire, international. M. Emadeddine Hamrouni, comment vous voyez donc cette ampleur de la sympathie et de la qualité de cette sympathie envers l'Iran après cette tragédie?
D'abord, ça montre la grandeur de l'Iran, la grandeur de la République islamique iranienne. À l'intérieur, on a vu des millions. Il faut rappeler que M. Raisi, paix à son âme, lorsqu'il était élu, il a eu les 17 millions de voix. Et on a vu pendant le deuil plus de 30 millions d'Iraniens sont venus dire adieu à ce président, à ce ministre des Affaires étrangères, à ses amis. Car le travail de M. Raisi, le travail de M. Abdellahian a donné toute cette sympathie, c'est-à-dire le renversement total de la situation. L'Iran qui est sous embargo, sous sanction, l'Iran qui est menacé d'isolement, grâce à l'action du président Raisi, grâce à l'action de son ministre, M. Abdellahian, l'Iran est devenu un acteur majeur dans la politique internationale, une puissance pas simplement régionale, mais une puissance géopolitique à l'échelle mondiale. Et donc c'est tout à fait normal qu'on a vu défiler des présidents, des premiers ministres, des responsables des pays arabes, des pays musulmans, des pays africains. Ça montre que l'Iran est présent par sa politique de bon voisinage avec ses voisins arabes, avec ses voisins musulmans, mais aussi avec les opprimés dans le monde, avec les pays de l'Amérique latine, avec les pays africains. Et donc cette sympathie vient de l'implication de l'Iran dans des actions que mènent les peuples dans le monde pour sortir de l'hégémonie américaine, anglo-saxonne, israélienne. Donc c'est vraiment ce qu'on a vu, ce qu'on est en train de voir, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction. Moi je vois ici en Europe, il faut saluer aussi le ministère des Affaires étrangères français qui a adressé une lettre de sympathie et de condoléance pour la République islamique d'Iran. Je vois toutes les sympathies ici en Europe, les gens qui viennent dans les ambassades, dans les consulats généraux iraniens, pour montrer leur sympathie, leur soutien au peuple iranien et à la politique, surtout étrangère iranienne. Donc, M. Raisi, en 38 mois, je m'excuse de le dire, mais il a fait mieux que n'importe quel président avant lui. Comme M. Abdellahian. M. Abdellahian, en 38 mois, n'a jamais cessé de bouger, de parler pour défendre l'intérêt de la nation iranienne, l'intérêt de la nation musulmane. Et surtout, M. Abdellahian, il était le ministre des Affaires étrangères de Gaza. C'était la voix de la résistance palestinienne. Donc toute cette sympathie vient de l'importance de la politique que mène la République islamique iranienne sous le guide suprême de la révolution, Sayyid Ali Khamenei, et que Dieu le protège. Donc c'est un ensemble, en fait, qui a fait qu'aujourd'hui l'Iran est devenu une puissance de stabilité et de paix, pas simplement dans la région, mais dans le monde.
Absolument. Monsieur Bernard Cornu, vu les propos que vous avez dit tout à l'heure, la bonne volonté de la République islamique d'Iran et les principes pacifiques donc, de la République islamique d'Iran envers le monde et avec les conflits qui n'ont jamais attaqué qui que ce soit, est-ce que vous croyez que l'ampleur de la participation du monde entier à ce deuil met en relief justement la résistance iranienne et le rôle de l'Iran dans les différents problèmes dans le monde?
C'est sûr, parce que l'Iran, il est à la fois craint, mal compris et sous sanction. Et en Occident, malheureusement, à travers nos médias, à travers les discours des politiques, les gens ont surtout cette image de l'Iran, que l'Iran apparaît menaçant à cause de l'action du Hezbollah envers l'État israélien, l'armée israélienne, envers les actions des outils du Yémen, en solidarité, et aussi après la réplique, la riposte iranienne assez massive, mais disons tempérée, en plus annoncée à l'avance quelque temps aux États-Unis pour que les États-Unis informent leurs alliés et prennent toutes les précautions pour utiliser toutes leurs armes installées dans la région pour contrer les quelques missiles lents qui ont été envoyés. Donc en fait, cette démonstration de force ou de sa capacité, disons, de défense de l'Iran a impressionné les gens. Mais elle a aussi, dans nos médias, confirmé cette fausse idée que l'Iran est menaçant. Et donc, dans les médias français que j'observe ou que je lis, on a surtout dit évoqué que M. Ismail Haniyeh, le chef politique du Hamas, résident le plus souvent à Qatar, est venu à Téhéran pour saluer les autorités d'Iran en hommage au président défunt, accidentellement. Et on a répercuté les discours à la fois de M. Haniyeh et de M. Al-Khamenei en référence aussi à ce qui était survenu dès lundi, c'est-à-dire la demande de mandat d'arrêt contre deux dirigeants israéliens et contre trois dirigeants du Hamas pour faire bonne mesure, ou surtout parce que l'État de Palestine avait adhéré au traité de Rome et donc il prenait le risque que tous les crimes commis dans ces territoires soient soumis à investigation. Et donc cela aussi imposait le risque que des dirigeants palestiniens soient aussi mis en examen, pour leurs actes dans la région. Donc en fait, c'est cette complexité de l'intrusion d'une justice internationale dans ce conflit qui doit juger toutes les parties, que ce soit un parti de résistance ou que ce soit l'armée d'occupation.
Oui, tout à fait. Emadeddine Hamrouni, on ne peut être que d'accord avec M. Bernard Cornu à votre tour. Qu'est-ce qu'il faudra de plus pour que le monde entier, enfin les pays, les grandes puissances, comprennent et que l'Iran n'est aucunement une menace pour le monde, mais au contraire, c'est un pays qui est pour la stabilité et la sécurité, non pas seulement pour la région, mais pour le monde entier, et faire face à cette résistance face au régime israélien. Donc, vous pensez également que la participation, la tristesse du monde à l'égard de l'accident du défunt président iranien met en relief justement le rôle de l'Iran pour cette stabilité?
Bien sûr, l'Iran, vous savez, c'est une nation, c'est pas simplement un État. C'est une civilisation importante dans l'équilibre du monde. Et donc, le retour en force de l'Iran menace pas les gens qui respectent la dignité des peuples, l'indépendance des peuples, mais menace l'hégémonie sioniste et l'hégémonie anglo-saxonne. Il faut dire les choses comme elles sont. Car la politique de M. Abdullahian et le président Raisi, c'était une diplomatie offensive et une diplomatie positive. C'est-à-dire que la différence, si on prend la différence entre la politique de M. Abdullahian, le grand martyr Abdullahian de la diplomatie iranienne, et du ministre Zarif, on voit la différence. C'est-à-dire on voit qu'il y a dans l'Iran des gens qui pensent que l'Iran, il faut qu'elle s'aligne sur la position américaine et européenne, comme M. Zarif pensait, et il y a la position du martyr M. Abdullahian, que lui, avec le président Raisi, ils sont allés d'abord vers leur voisinage arabe et musulman, vers l'Arabie saoudite, avec l'accord stratégique par la Chine, donc un accord historique, vers aussi le Pakistan et la Turquie, qui sont deux pays musulmans et deux pays très importants dans la région et dans le monde, mais aussi vers la Chine et la Russie. Et donc, on a vu une autre diplomatie, une autre énergie qui a sorti l'Iran de son isolement, et que la République islamique d'Iran et que la nation iranienne a montré qu'elle est capable de venir parmi les rangs des grandes puissances. Comme l'a dit M. Cornu, le 13 avril, le soir du 14 avril, l'Iran a marqué le coup et elle a montré qu'elle est capable de mener la guerre contre l'entité sioniste, elle est capable d'anéantir l'entité sioniste, mais elle ne le fera pas. Et donc, elle a anéanti la force de la dissuasion israélienne, et ça, ça a changé tout l'échiquier régional et global a changé par cette frappe très technique, mais très puissante. Et donc, la diplomatie iranienne, par la voix du feu Raisi et par la voix du feu Abdullahian, a donné un sens à la République islamique, un sens à la diplomatie islamiste iranienne, dans le sens où le slogan le plus important de l'Iran, c'était « ni Est, ni Ouest, République islamique ». Donc, la diplomatie iranienne, pendant 38 mois, elle a dépassé tout ce que les diplomates iraniens avant Abdullahian, parce qu'il y aura avant Abdullahian et après Abdullahian. Après Abdullahian, l'Iran, elle elle est dans l'énergie de la diplomatie libératrice. C'est-à-dire que l'Iran, c'est une force. Aujourd'hui, c'est un centre important, pas simplement pour les musulmans, pas simplement pour les Palestiniens, mais pour les pays et les peuples de l'Amérique latine, pour les pays de l'Afrique, mais aussi pour les pays de l'Asie et de l'Asie centrale. Donc c'est un changement radical. Aujourd'hui, l'Iran représente un espoir, pas simplement un espoir dans la géopolitique, mais un espoir dans la pensée politique. Parce qu'il faut rappeler que beaucoup de monde pensait que lorsque un président décède et lorsqu'on arrive à se maintenir politiquement, ça veut dire que l'Iran elle a des instructions. C'est un État. Et moi, j'ai toujours dit, l'Iran ressemble beaucoup à la France. La France, c'est une nation. Ce n'est pas simplement un État, comme l'Iran. Les États-Unis, ce n'est pas une nation. Il n'y a pas une nation américaine. Il y a un État américain. Et c'est ça la différence. Il n'y a pas une nation israélienne. Il y a une armée israélienne. Donc, c'est très important que le langage de la diplomatie de M. Abdelahian, la volonté de président Raisi, le grand Mahdi Raisi, qui a fait un grand travail à l'intérieur même de l'Iran. Il a combattu la corruption. Il a mené un travail social vis-à-vis des opprimés iraniens. Et il a donné la force militaire et économique à l'Iran. Il faut rappeler que l'inflation avant Raisi, elle était autour de 60%. L'inflation aujourd'hui en Iran, elle est à 37%. Donc c'est un président et c'est un gouvernement qui a travaillé 24 heures sur 24 à l'intérieur de l'Iran, autour de l'Iran et dans le monde pour ramener cette dynamique qu'on est capable de combattre l'hégémonie américaine.
Oui, absolument. Monsieur Bernard Cornu, c'est vrai que l'Iran est devenu le symbole de l'espoir pour les pays opprimés tels que la Palestine. Mais parlons, s'il vous plaît, si vous voulez bien, de la suite de cet accident tragique qui a coûté la vie à un président aimé, donc de la population iranienne. Est-ce que vous croyez que... Bon, c'est vrai que l'Iran est sorti de l'isolement depuis toujours et a montré qu'il n'est pas isolé. Au contraire, c'est de l'espoir donc pour le monde entier. Mais suite à cet accident, est-ce que vous croyez que ça va changer la donne et nous allons aller dans un sens positif envers donc, de la résistance, surtout concernant la question palestinienne?
Vous savez, dans les médias, après cet accident d'hélicoptère, dans les médias occidentaux, on a eu un peu peur. On a vu peut-être le risque d'une période d'instabilité en Iran. Or, en fait, très rapidement, l'Iran a bien dit que la constitution iranienne avait prévu ce cas et que la continuité était assurée par un collectif présidé par le vice-président. Les choses se sont calmées. Mais on a fait des commentaires sur les propos de Khamenei face à Ismail Haniyeh, comme il y a une douzaine d'années, une quinzaine d'années, quand le président Ahmadinejad a fait un discours, et on a évoqué ces termes qui étaient mal traduits, puisque l'Iran réclame la fin du système, du régime sioniste, et ne réclame pas la fin de la destruction d'Israël ou le départ des Juifs. Je voulais rappeler d'ailleurs à ce moment-là un épisode historique qui mérite d'être rappelé à ce moment-là. Le Nabucodonosor avait conquis la Palestine et avait emmené beaucoup d'artisans, d'orfèvres juifs, de résidents de la Palestine de l'époque, à Babylone. Et un peu plus tard, Cyrus, donc... chef de l'Iran, de la Perse de l'époque, a autorisé ces Juifs de Babylone à repartir. Beaucoup sont restés parce qu'ils étaient bien à Babylone, qui était une cité riche, très active. C'est pour ça qu'en Irak, au moment du mandat britannique, il y avait près de 100 000 Juifs installés. Et ces Juifs, d'ailleurs, sont hélas partis sous la pression du Mossad qui a organisé des attentats. Donc toute cette complicité de la situation du Moyen-Orient doit être rappelée. Il faut des efforts de paix, de justice, de liberté. Et quand on dit en Iran que la Palestine doit être libre de la mer au Jourdain, cela n'implique pas, comme on l'interprète faussement en Occident, les départs des Juifs qui sont installés honnêtement sur place. et bien sûr la fin des hostilités, la fin des colons armés qui persécutent les Palestiniens. Voilà, c'est ce message de paix que l'Iran veut dire, mais il est hélas mal interprété en Occident, qui parle souvent de nucléaire sans dire le mot civil. Et donc tous les gens pensent que l'Iran veut développer un armement nucléaire, et donc cette peur est entretenue de façon très fausse et très trompeuse envers notre pays occidental.
Mais est-ce que vous ne pensez pas, au cours de ces dernières années, les choses ont changé, surtout chez la jeunesse dans le monde entier? Donc ils ne pensent plus ce qu'ils voient donc aux médias concernant l'Iran, et ils savent très bien que l'Iran a des activités purement pacifiques dans le domaine nucléaire et dans d'autres domaines d'ailleurs, M. Bernard Cornu.
C'est vrai, mais à mon âge, je ne suis plus très jeune, et bien sûr je connais la jeunesse et je sais qu'ils écoutent beaucoup plus les médias sociaux, mais qui peuvent être aussi trompeurs. Ils écoutent moins les médias occidentaux, mais qui gardent l'influence quand même pour les gens qui sont au pouvoir, nos députés au Parlement européen ou en France regardent encore la presse et les télévisions publiques. D'ailleurs, une partie est en grève aujourd'hui parce que certains pensent parmi ces journalistes qu'on veut limiter leur indépendance, qui est sur certaines chaînes publiques quand même réelle, et on le voit dans leur évolution d'ailleurs de leur position sur la Palestine, qui sont de plus en plus franches et de plus en plus critiques.
Absolument. Emma Dedena Bruni, est-ce que vous voulez bien conclure le débat d'aujourd'hui, je vous prie?
Encore une fois, toutes mes condoléances pour le peuple iranien. C'est une perte d'un grand homme qui s'appelle Raisi, d'un grand homme qui s'appelle Abdelayed, mais le peuple iranien, aujourd'hui, il nous a montré qu'il veut la paix, qu'il veut la stabilité, mais il défend l'indépendance de l'Iran. Le futur iranien est lié au futur de la région et au futur du monde, que la République islamique, sous la guidance du vice suprême Sayyid Ali Khamenei, elle sera plus forte, plus puissante et plus stable.
Oui. Mahdedine Hamrouni, analyste politique depuis Paris, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Et un grand merci à M. Bernard Cornu, également analyste politique, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Eh bien, ici prend fin ce débat. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
BRICS, 260 milliards de dollars d'échanges commerciaux, sans un seul dollar. Alors que la folle croissance de la dette américaine de plus de 34 600 milliards de dollars continue d'inquiéter, les BRICS assènent un nouveau coup au billet vert. La Chine et la Russie, deux pays fondateurs de l'Alliance, ont prévu 260 milliards de dollars d'échanges commerciaux sans recours au moindre dollar américain, uniquement du rouble russe, du yuan chinois et un peu d'euro. D'autres membres de la coalition devraient bientôt leur emboîter le pas. Ayant perçu l'immédiateté de la menace, les États-Unis réagissent en combinant menace et diplomatie. La menace de la dédollarisation des échanges mondiaux a dépassé l'étape de la rhétorique. Déterminés à détrôner le billet vert, la Chine et la Russie prévoient effectuer cette année 260 milliards de dollars d'échanges sans utiliser un seul dollar. L'information a été relayée sur X par le célèbre analyste géopolitique indien S.L. Gandhan, qui prédit une généralisation prochaine de cette initiative au sein des BRICS. En effet, l'année passée, la Chine et la Russie avaient effectué plusieurs échanges commerciaux officiels en yuan et en rouble. De même, la Russie effectue depuis un moment des transactions en yuan avec plusieurs pays dont le Japon, les Émirats arabes unis, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines, la Mongolie et le Tadjikistan. En accélérant la dédollarisation de ses échanges avec la Russie, la Chine poursuit son ambition de détrôner les États-Unis, activement première puissance économique mondiale. Le pays a annoncé une croissance économique de 5% en 2024 et fait aussi partie, en 2024, des plus grands investisseurs dans l'or, l'actif auquel la future monnaie des BRICS devrait être adossée. Pour contrecarrer le plan des deux membres influents des BRICS en faveur de la dédollarisation, les autorités américaines jouent la carte des sanctions. En effet, le projet russo-chinois de limitation des échanges commerciaux en dollars américains intervient dans le contexte du conflit russo-ukrainien. Les États-Unis menacent donc de sanctions les banques chinoises qui font des transactions avec Moscou, les contraignant à rejeter les paiements en roubles russes. Ces dernières se menaçaient d'être accusées d'aider le Kremlin à combattre l'Ukraine. Toutefois, un rapport de Reuters révèle que les autorités américaines auraient adopté une approche de résolution diplomatique pour calmer les ardeurs. On verra si cela empêche la Palestine de rejoindre les BRICS après que le veto des États-Unis a empêché sa pleine adhésion à l'ONU. Loi pour l'abolition de la réserve fédérale américaine. En novembre 1910, de puissants banquiers américains, dont Paul Warburg, se sont réunis à Jekyll Island pour élaborer un système financier mondial pour contrôler l'économie mondiale. Cette réunion aboutira à la création du système de réserve fédérale le 23 décembre 1913. Ils ont créé un système qui contrôle le système financier mondial pour leur propre profit, ainsi que les politiques mondiales. Ils ont mis à profit les conseils de Mayer, Amschel, Rothschild. « Donnez-moi le contrôle de la monnaie du pays et je n'aurai pas à m'en soucier de ceux qui font ces lois. » Depuis 1971 et l'abandon de la convertibilité or du dollar, avec la déréglementation galopante et les taux de change flottants, les États-Unis ont bénéficié d'un système monétaire taillé sur mesure pour leur unique profit. Dispositif qui, s'il n'était pas celui d'un État soutenu par le consensus d'élite converti au fétichisme libéral, serait celui d'une organisation criminelle et mafieuse. Le député Thomas Massey présente une loi sur l'abolition du Conseil de la Réserve fédérale pour mettre fin à la Fed. Le représentant Thomas Massey, RKY, annonce l'introduction de HR 8421, la loi sur l'abolition du Conseil de la Réserve fédérale. La législation du représentant Massey abolit le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et les banques de la Réserve fédérale. Elle abroge également le Federal Reserve Act, la loi de 1913, qui a créé le système de la Réserve fédérale. Les Américains souffrent d'une inflation paralysante et c'est la faute de la Réserve fédérale, a déclaré le député Massey. Pendant le COVID, la Réserve fédérale a créé des milliers de milliards de dollars à partir de rien et les a prêtés au département du Trésor pour permettre des dépenses déficitaires sans précédent. En monétisant la dette, la Réserve fédérale a dévalué le dollar et a permis des politiques d'argent gratuit qui ont provoqué la forte inflation que nous connaissons aujourd'hui. La monétisation de la dette est un effort étroitement coordonné entre la Maison-Blanche, la Réserve fédérale, le Département du Trésor, le Congrès, les grandes banques et Wall Street, poursuit le député Massey. Grâce à ce processus, Les retraités voient leurs économies s'évaporer en raison des actions d'une banque centrale qui poursuit des politiques inflationnistes profitant aux riches et aux nantis. Si nous voulons vraiment réduire l'inflation, la politique la plus efficace est de mettre fin à la réserve fédérale. Les co-sponsors originaux de la législation du député Massy sont les députés Andy Bix, Eraz, Lauren Boebert, Erko, Josh Brishin, Er Oak, Tim Burchett, RTN, Eric Burleson, R. Mon, Kat Kamak, RFL, Michael Code, RTX, Ellie Crane, Raz, Jeff Duncan, RSC, Matt Gatz, RFFL, Bob Good, RVA, Paul Gasser, Raz, et les autres députés de l'Union européenne. La loi sur l'abolition du Conseil de la Réserve fédérale a été introduite pour la première fois par l'ancien représentant Ron Paul, RTX, en 1999 et n'a pas été représenté depuis 2013. En plus d'introduire cette législation pour mettre fin à la Fed, REP, Massy a également introduit HR 24, la loi sur la transparence de la réserve fédérale de 2023 pour auditer la réserve fédérale. La loi HR 24 a été introduite à l'origine par l'ancien représentant Ron Paul, RTX, en 2009. La Chine se débarrasse de la dette américaine à un rythme record. La guerre des sanctions menée par Washington contre Pékin conduit la Chine à retirer à un rythme record des titres de créance du Trésor américain et d'autres agences gouvernementales. Selon les médias, pour le premier trimestre de 2024, le Middle Kingdom s'est débarrassé de titres américains d'une valeur de 53,3 milliards de dollars. Il est rapporté qu'un tel volume, en seulement 3 mois, est un record historique pour la Chine. Des actions similaires sont causées par un certain nombre de facteurs. Tout d'abord, les experts appellent le commerce croissant de Pékin avec Moscou et Téhéran. Dans les accords avec ces pays amis, le dollar américain n'est pratiquement pas utilisé. Dans la situation géopolitique actuelle, la Chine préfère remplacer la dette américaine par de l'or, augmentant ainsi les achats de ce métal précieux. En seulement un an, dans les réserves de la Banque populaire du Mayan Empire, le volume des obligations d'État des États-Unis est passé de 869 à 767 milliards de dollars. Washington tente de compenser les pertes et de maintenir le dollar à flot, forçant les alliés à acheter leurs titres de créance. Les analystes notent une augmentation des achats de la dette publique des États-Unis par le Canada, le Japon, la Grande-Bretagne et les pays de l'Union européenne. Donc, les États-Unis sont en train de pomper l'économie des pays alliés, tout en essayant d'influencer Pékin par des sanctions commerciales. Le magazine Atlantic a critiqué vivement la Chine, l'accusant de développer sa propre économie. Selon les journalistes, le gouvernement de Xi Jinping mérite une guerre commerciale avec les États-Unis, car il cherche à réduire les importations de produits occidentaux, tout en élargissant ses exportations.
Thank you.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.